Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour la dernière émission de la semaine. Nous allons la consacrer à un colloque organisé à l'Institut catholique de Toulouse les jeudis 14 et vendredi 15 novembre. Il a pour thème les racines juives de la liturgie chrétienne et il est animé par mon invité du jour, le père Arnaud Franc. Bienvenue Père Arnaud, merci d'avoir accepté de venir nous présenter le programme de ce colloque et ce qu'a été l'influence du culte juif sur les rites chrétiens. Je précise que vous êtes théologien et responsable de la commission de la pastorale liturgique et sacramentelle dans le service diocésain Célébration à Toulouse. Vous êtes également délégué diocésain pour le dialogue avec le judaïsme. Une information pratique importante d'emblée pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par ce colloque. Il est payant et il faut s'inscrire au préalable pour y assister, que ce soit sur place ou à distance, par le biais de la visioconférence.
Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Merci de m'avoir invité pour cette émission consacrée à cette session. Effectivement, cette session est accessible par visio puisque en présentiel, tout est plein. Donc c'est une bonne nouvelle, ça montre que cette question suscite de l'intérêt parmi non seulement les chrétiens, mais aussi les juifs et tous ceux qui participeront à cette session.
Session sur 2 jours donc. Alors le tarif c'est 75 euros, 62 euros pour les étudiants, précision qu'il fallait faire aussi, et on peut s'inscrire par mail ierp@ict-toulouse.fr, et puis sinon on peut le faire par téléphone au 05 62 26 58 84, 05 62 26 58 84. Ces précisions étant faites, on en vient au sujet, hein, vraiment. Quand on parle des racines juives de la liturgie chrétienne, ça veut dire qu'on parle du culte juif des premiers siècles tel que le pratiquait Jésus lui-même et ses apôtres.
Jésus est juif, ça c'est un élément important qu'on pourrait ignorer aussi, mais il est juif et ce n'est pas un détail de l'histoire. Il est né à l'intérieur d'un peuple, le peuple de Dieu, le peuple fondé et choisi par Dieu, qui porte une promesse. Et c'est à l'intérieur de cette alliance que Jésus va naître. Nous allons aussi l'entendre dans quelques temps avec la période de l'Avent et de Noël. Et donc la question que l'on peut se poser est la suivante: si Jésus est juif, ça veut dire qu'il a vécu la liturgie juive, qu'il a été imprégné aussi par elle. Nous le savons, les premiers apôtres et les premiers chrétiens sont juifs. Ensuite, au fur et à mesure, des païens vont intégrer cette nouvelle communauté. Et donc la question que l'on peut se poser, c'est: est-ce que la liturgie chrétienne a des racines juives? Et si oui, lesquelles? Effectivement, de pouvoir porter un regard historique sur les premières communautés chrétiennes, et puis au fur et à mesure, regarder aussi notre propre liturgie et percevoir en elle les racines juives, pas seulement de faire une liste rituelle comparative, mais derrière, il y a une véritable question théologique. Parce que si nous partageons des éléments avec la tradition juive, eh bien, cela veut dire que nous croyons que nous nous situons dans la même alliance qu'eux et que ce culte-là aussi, comment nous le vivons. Nous le savons aussi, et l'Évangile nous en porte des traces, il y a des références justement avec des fêtes juives. Donc c'est toujours bon de connaître cet arrière-fond juif aussi pour mieux connaître l'Évangile.
Il s'agit donc, lors de ce colloque, d'explorer l'influence du culte juif sur les rites chrétiens, et en particulier sur celui de l'Eucharistie. Mais il y a une perspective derrière tout ça, c'est une perspective théologique et pastorale, qui est issue des relations judéo-chrétiennes, qui avaient été réactivées, je le rappelle, renouvelées par le Concile Vatican II. Il faudra qu'on rappelle ce que Vatican II a apporté dans les relations entre l'Église et le judaïsme.
Il a apporté une étape très importante pour l'Église parce que le Concile se situe dans une histoire où pèse sur les épaules du christianisme un anti-judaïsme, pour ne pas dire parfois un antisémitisme. Presque depuis le Christ lui-même, on sait qu'entre les premiers chrétiens et les juifs, et nous en avons des témoignages dans le Nouveau Testament, très vite, des conflits ont émergé entre les différentes communautés. Même Jésus a cristallisé autour de lui plusieurs tensions. Et au fur et à mesure des siècles, il y a tout ce poids qui s'est constitué. Nous savons qu'au XIIIe siècle, par exemple, à Toulouse, l'archevêque sortait de la cathédrale le Vendredi Saint et muni d'un gant clouté, giflait soit le rabbin, soit une personnalité juive de la ville, jusqu'à ce qu'il meure. Pour le Vendredi Saint, parce que le peuple juif était reconnu comme le peuple déicide, comme celui qui avait tué Jésus et donc tué Dieu. Donc le Concile Vatican II a apporté des éléments importants pour retrouver le dialogue avec le judaïsme, mais il faut savoir aussi que ce n'était pas à l'ordre du jour, que l'Église n'avait pas prévu d'explorer ce champ-là. Et c'est Jules Isaac, un juif laïque, on pourrait dire, c'est-à-dire un juif pas forcément religieux, mais là encore, on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, c'est important de se dire que c'est un juif, finalement, qui a interpellé l'Église en disant « Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, je reprends son expression, passer de l'enseignement du mépris à des retrouvailles ?» Parce qu'effectivement, c'est une affaire de famille entre Jésus et les Juifs. Et donc, le Concile a pu se replonger dans ses relations grâce à de nombreux travaux d'exégètes. C'est intéressant aussi de se dire que c'est venu aussi par la voie de l'exégèse, parce que ce que nous partageons entre les Juifs et les chrétiens, ce sont les mêmes écritures saintes. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux sur elles. Et vraisemblablement, c'est grâce à elles qu'on a pu se retrouver. Et donc, le Concile Vatican II, avec un texte très important, Nostra Aetate, qui porte sur les liens entre l'Église et les autres religions, il y a un numéro particulier, le numéro 4, accessible sur le site du Vatican, vous pouvez y aller, qui condense le nouvel enseignement qui invite à une véritable fraternité en raison même des saintes écritures que nous partageons, en raison de l'alliance que Jésus a voulu renouveler.
Mais ça pose très bien le décor de vos interventions lors de ce colloque qui se passe en deux temps distincts. Il y a deux journées, donc 14 novembre, 15 novembre. Et puis, à l'intérieur de ces journées, il y a également deux temps, le matin de 9h30 à 12h30 et l'après-midi de 14h à 17h. La première journée, celle du 14 novembre, est dédiée au lien entre les liturgies juives et chrétiennes au XXe siècle. Pourquoi vous commencez par ce thème ?
Parce que le XXe siècle est la période où les choses vont se poser de nouveau. Je ne peux pas dire que avant personne ne s'intéressait au lien entre liturgie juive et liturgie chrétienne, mais en raison de cet anti-judaïsme, il y avait une certaine ambivalence et ambiguïté chez les chrétiens, parce que en fait eux-mêmes reconnaissaient qu'il y avait des liens. Par exemple, amen, c'est un mot hébreu et en fait c'est resté dans nos liturgies comme hosanna. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, mais on ne voulait pas trop les regarder. Et en fait, c'est au XXe siècle, parce que aussi à cette période-là, il y a le mouvement liturgique, il y a aussi des retrouvailles de manuscrits, on va à la source historique de certains textes, on redécouvre les liens entre liturgie juive et liturgie chrétienne. Le XXe siècle est à la fois marqué par cette ambivalence, par aussi le drame de la Shoah, qui provoque aussi un certain intérêt en se disant « mais là, il y a quand même quelque chose avec les Juifs, et donc Jésus est juif ». Et donc, du coup, certains théologiens, liturgistes, vont essayer de retrouver ces liens. Et s'il fallait caricaturer, ou plutôt schématiser, on pourrait dire qu'on est passé d'un enthousiasme, parce qu'on a découvert des textes, et au cours de la session, je m'efforcerai, en tout cas, c'est vraiment un de mes souhaits, de faire entendre ces textes juifs qu'on a redécouverts, et effectivement, à travers lesquels, en tout cas dans lesquels, on peut percevoir certains liens. Et puis, le Concile Vatican II, comme on l'exprimait tout à l'heure, a donné les clés théologiques, en fait, pas justement de retrouver des liens rituels, mais de donner des clés théologiques. Et donc, on se trouve dans un temps propice au XXe siècle pour davantage aborder ce sujet.
Oui, parce qu'effectivement, il y a deux sous-thèmes à cette première intervention du jeudi matin. Un temps de redécouverte et d'approfondissement, et l'autre, c'est l'enseignement de l'Église sur les relations judéo-chrétiennes. Alors ça, c'est un rappel de Vatican II, je suppose.
Oui, oui, oui. En fait, je partirai de quelques textes de liturgistes et de manuels au début du XXe siècle qui sont assez durs hein, sur le lien avec le judaïsme. Et puis au fur et à mesure qu'on s'approche du Concile, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et qu'on redécouvre ces textes, on s'interroge et on approfondit davantage cette question-là. Et il se trouve que peut-être la providence fait que le concile arrive et qu'on veut retrouver des liens avec le judaïsme. Et donc on se situe, nous encore aujourd'hui, dans cette veine du concile Vatican II et avec tous ces travaux du XXe siècle. Et donc nous sommes dans un temps favorable en réalité, nous en 2024, de pouvoir poser à la fois cette fraternité renouvelée, retrouvée avec nos frères juifs. Et d'une certaine manière, on comprend que ça a été difficile au début, comme dans une famille où les liens entre des frères peuvent être compliqués. Et puis au fur et à mesure, il y a quelque chose qui fait qu'on retrouve l'essentiel. Et sans doute, on se trouve dans l'histoire à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il faille cacher ce qui s'est passé. Au contraire, le pape François, pour toute autre chose, mais nous invite toujours à retrouver ce qui a fait notre passé. Mais l'Église et même les Juifs aujourd'hui reconnaissent qu'on est dans un temps favorable où on peut à la fois se respecter dans nos différences, mais aussi retrouver quelque chose qui est commun. Et la liturgie est un de ces domaines.
Et concernant la forme de vos interventions, comment vous illustrez vos propos? Est-ce qu'il y a la projection de documents via des diapositives ou je sais pas, des vidéos?
Oui, c'est très important. Alors ça, je le dois à l'Institut supérieur de liturgie où je suis étudiant. Je ne vais pas faire des conférences magistrales. L'intérêt, c'est de présenter des textes témoins. Et pas que des textes, je ferai entendre aussi certaines musiques ou je montrerai certaines vidéos. Parce que la liturgie, il ne faut pas tomber dans ce piège de l'intellectualisme ou d'un ritualisme. La liturgie, c'est du vivant, ce sont des prières, c'est le corps qui s'anime, c'est quelque chose de très charnel et de très sensoriel. Donc, au cours de la session, je ferai entendre des textes et on entrera dans un partage.
Il y aura un dialogue avec le public pourra intervenir, poser des questions.
Oui, bien évidemment, je soumettrai des textes à la discussion.
L'après-midi, de 14h à 17h, le jeudi donc, vous consacrez votre intervention à un aperçu de la vie liturgique juive au 1er siècle. À quoi elle ressemblait d'ailleurs?
C'est une grande question qui taraude les chercheurs, et pas seulement les chercheurs, mais tout chrétien peut être curieux de se dire « mais tiens, c'est quoi l'ambiance même de la vie que Jésus a connue ?» Et quand on se pose la question, forcément, on reconnaît que cette ambiance, elle est liturgique. Parce que c'est un peuple qui a cette conscience d'être le peuple de Dieu. Et avec le livre de l'Exode, on sait bien que toutes les étapes de la vie de ce peuple est marquée par des événements sans cesse relus de manière liturgique et même vécus dans la liturgie. La fête de Pâques, on le sait bien, c'est la libération de l'Égypte, la libération de ce temps de servitude pour servir Dieu. Et Dieu dit à son peuple, eh bien, chaque année, vous ferez mémoire de cette libération à travers une fête. Donc, le peuple juif a une vie liturgique très forte. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de remonter le temps et de nous plonger dans cette vie-là. Et en fait, c'est impossible. En tout cas, beaucoup s'y sont risqués et peut-être sont allés trop vite parce que nous ne savons pas finalement grand-chose de manière précise sur cette vie liturgique. Mais quand même, en récoltant, et je proposerai à ceux qui participent à cette session d'être eux-mêmes des investigateurs à travers les pièces que je leur proposerai, il y a différents témoignages qu'on peut faire résonner. Et effectivement, il y a le temple au moment de la vie de Jésus. Il y a la destruction du temple quelques années après la mort du Christ. Le temple, c'est quand même au temps de Jésus le foyer de toute la vie liturgique. Autrement dit, il y a un véritable cataclysme, un choc que traverse le peuple juif, puisque qui dit destruction du temple dit destruction de la vie liturgique. Mais il y a aussi les synagogues. Alors, quelle place elles ont dans ce dispositif? Et puis, la maison a une place aussi très importante. On l'entend dans les témoignages que nous donne le Nouveau Testament, par exemple. Donc, on repère des lieux. On peut aussi découvrir des prières que la recherche nous a permis de retrouver, mais aussi dans les Nouveaux Testaments, on peut aussi repérer ces prières-là. Et puis, finalement, on découvre petit à petit que la vie liturgique juive des premiers siècles, elle est marquée par des espaces, mais aussi par un temps. Et là, je ferai écho à ce magnifique livre d'Abraham Michel qui s'intitule « Les bâtisseurs du temps ». Et peut-être, c'est ma question, la véritable racine juive de notre liturgie chrétienne, elle ne se situe peut-être pas dans des correspondances avec des lieux. Est-ce que notre église, c'est le temple? Est-ce que notre maison, c'est aussi un lieu de prière? Bon, ce sont quand même des questions qu'on creuse. Mais la racine juive, elle est peut-être aussi liée au temps, parce que notre vie liturgique est une année liturgique et nous avançons davantage dans le temps à travers les fêtes, à travers les dimanches.
Oui, parce qu'effectivement, il y a deux phases à votre intervention du jeudi après-midi. La première, c'est la liturgie au temple, à la synagogue et à la maison. C'est ce que vous venez de décrire. Et puis la seconde phase, c'est la liturgie à travers les fêtes juives. C'est-à-dire que vous parlez de ce temps qui est rythmé par des événements qui sont souvent des fêtes.
Oui, en fait, quand on cherche à entrer dans les lieux sacrés juifs, on découvre qu'ils sont là pour nous faire entrer dans la dynamique du temps. Voilà. Dieu a créé le temps. Il suffit d'ouvrir la première page de la Bible pour s'apercevoir qu'il y a eu d'abord un jour, deux jours, et que la première réalité que Dieu a sanctifiée, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une personne, c'est un jour. C'est le septième jour, le sabbat. Et donc, il y a davantage une attention portée au temps. Et j'aimerais creuser cette histoire-là avec les participants de la session, de voir que finalement, la présence de Dieu est davantage peut-être dans le temps que dans des espaces. Et ça, ça résonne pour nous, parce que l'Église, elle peut être détruite. On le sait que y a beaucoup de pays où les chrétiens sont martyrs et donc du coup, ils n'ont pas de lieu où se rassembler. Mais l'Église, avec un grand E, n'est pas détruite. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui dépasse le lieu. Eh bien, c'est la communauté.
Et qui s'inscrit dans le temps.
Et qui s'inscrit dans le temps. Avec cette liturgie qui est un véritable don, on la reçoit, comme dit saint Paul, je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu. Cette dimension de la transmission, elle est très forte dans la liturgie, mais elle est très forte dans le judaïsme. Et en fait, c'est grâce au judaïsme que le christianisme a finalement perçu que notre mission, c'était de vivre dans le temps et de sanctifier le temps pour que nous puissions avancer dans le royaume de Dieu.
Après avoir parcouru avec vous le programme de cette première journée du colloque « Les racines juives de la liturgie chrétienne » que vous allez donc animer le jeudi 14 novembre à l'Institut catholique de Toulouse, nous allons faire une pause musicale dans cette émission avant de nous plonger dans le programme de la seconde journée, celle du 15 novembre. Il y a quelques jours, nous commémorions le 100e anniversaire de la mort de Gabriel Fauré et pour honorer la mémoire du grand compositeur ariégeois, né à Pamiers, je le rappelle, et je sais que vous êtes ariégeois et que beaucoup d'ariégeois nous écoutent, eh bien nous allons écouter l'ouverture de sa très belle pièce « Masques et bergamasques ». Il s'agit d'une version enregistrée par l'Orchestre national du Capitole sous la direction de Michel Plasson.
Vivante Église, Éric Dupri.
La suite de ce numéro de Vivante Église avec le père Arnaud Franc qui anime le colloque Les racines juives de la liturgie chrétienne, jeudi 14 et vendredi 15 novembre à l'Institut catholique de Toulouse. Nous avons déjà parcouru le programme de la première journée du colloque. La seconde se déroule sur le même modèle, toujours en deux temps, de 9h30 à 12h30 le matin, puis de 14h à 17h l'après-midi. Votre intervention du matin est consacrée au thème « Quel est le lien entre l'Eucharistie chrétienne et la Pâque juive ?» Et c'est un peu le cœur du sujet pour vous, si j'ai bien compris. Et comment vous l'abordez ?
Alors je pense que lorsque, entre chrétiens, on se pose la question c'est quoi nos racines juives de la liturgie ? Fondamentalement, on se tourne vers la messe. Parce que c'est une action liturgique importante pour nous, même si, comme on le disait tout à l'heure, au niveau du temps, il faudrait étudier les liens entre la liturgie des heures et ces prières qui ponctuent la vie d'un juif des premiers siècles, comme aujourd'hui. Mais effectivement, il y a quand même une concentration autour de la question de la messe liée au contexte qui est celui de la Pâque. Jésus a réuni ses apôtres avant de mourir dans le cadre d'un repas, et c'est là que nous croyons qu'il a institué le sacrement de l'Eucharistie et celui de l'ordre, et qu'il a comme préfiguré, anticipé rituellement le sacrifice sur la croix et sa résurrection. Donc c'est quand même un point central de notre foi et de notre vie chrétienne. Or, il y a quand même des liens très forts avec le judaïsme, puisque le jour de sa mort, c'est le jour de la plus grande fête juive, Pessah, Pâques. Et qu'en plus, cette année-là, comme nous précise un des évangélistes, Pâques tombait un jour du sabbat. Donc ça associe à la fois la Pâque juive, mais aussi ce rituel et ce moment liturgique très important qui est le Shabbat. Alors, au XXe siècle, beaucoup de chercheurs ont fait des liens entre les rituels de la Pâque juive et les rituels de l'Eucharistie, en particulier sur les bénédictions, puisque ça se vit pendant un repas et que le repas, comme on le disait tout à l'heure, tout est liturgique dans la vie d'un juif. Donc même les repas sont des lieux et des moments liturgiques. Alors, on a perçu à travers certaines bénédictions juives, les brachot, eh bien certaines consonances avec nos prières eucharistiques. Puisqu'on commence par louer le Seigneur, et que dans le mémorial des œuvres de Dieu, eh bien, on lui fait des supplications. Mais c'est le même schéma que nos prières eucharistiques, qui commencent avec la préface, qui loue les œuvres et les merveilles de Dieu dans le passé. Il y a le mémorial de l'acte de Jésus, et ensuite, après les paroles de consécration, eh bien, il y a de nombreuses suppliques faites au Père. Alors, effectivement, on découvrira certains textes, certaines brachot, notamment la Birkat Hamazon, qui est un texte magnifique de l'action de grâce après le repas, pour découvrir des liens. Il y a la grande question du Seder Pascal, ce fameux repas que les Juifs, encore aujourd'hui, vivent au moment de la Pâque. Est-ce que Jésus a vécu le Seder de Pessah ? Eh bien, les avis sont partagés. En tout cas, aujourd'hui, on découvre qu'il n'a peut-être pas vécu le repas juif tel que les Juifs aujourd'hui le pratiquent. Et que il y a, et c'est très intéressant à le voir, des influences aussi du christianisme sur le culte juif. Puisque même si le culte juif a puisé dans des anciennes traditions, il ne faut pas oublier que c'est après la destruction du temple qu'il y a eu un remaniement liturgique important pour les juifs, mais aussi du coup pour les chrétiens. Autrement dit, les juifs et les chrétiens ont bâti leur rituel un peu en même temps. Et vu que les chrétiens piquaient entre guillemets pas mal de choses chez les juifs, eh bien les juifs, un peu par réaction identitaire, ont aussi bâti leur rituel un peu en opposition au christianisme. Mais ce qui est important, c'est de se dire que quand même Jésus a posé ses gestes et ses paroles dans un contexte pascal, et que c'est en redécouvrant le sens de la Pâque juive qu'on peut découvrir quel est le sens de la Pâque chrétienne et donc de l'Eucharistie, qui est action de grâce, un autre nom aussi pour dire brachot.
Donc il y aura deux phases, là encore, à votre intervention pour ce qui concerne le matin du 15 novembre, la découverte des sources liturgiques juives et chrétiennes, et puis les bénédictions et actions de grâce dans les deux traditions. C'est ce que vous venez d'évoquer. On en arrive à l'après-midi du 15 novembre, toujours de 14h à 17h. Vous avez donné à votre intervention le titre « Grandir dans l'amitié judéo-chrétienne grâce à la liturgie ». La liturgie serait donc une source de rapprochement entre juifs et chrétiens qui, c'est ce que je comprends là encore, hein, selon vous, ne serait pas assez mise en avant de part et d'autre. Hein.
Exactement. Je pense qu'il faut honorer, autant que ça soit possible, les recherches historiques, archéologiques, liturgiques des premiers siècles. Et les recherches ne sont pas finies encore aujourd'hui. On cherche à découvrir quels étaient les liens si complexes, parce que, en fait, quand on dit les juifs, mais en fait, il y avait plusieurs types de juifs. Quand on dit les premiers chrétiens, en fait, c'est une...
Il y avait plusieurs communautés.
Effectivement. Et puis, vu les liens si intimes et si conflictuels, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça quand on dit que les racines de la liturgie chrétienne sont juives. En fait, on pourrait presque se demander, est-ce que c'est vraiment des racines juives que nous avons ? Donc, la session se situe au niveau des premiers siècles et de voir comment le culte juif et le judaïsme ont influencé la liturgie chrétienne et la vie chrétienne. À la fin de ce parcours, j'essaierai de soit renverser les choses ou plutôt de nous resituer dans notre temps qui est le nôtre aujourd'hui, parce qu'il se trouve, je ne vous apprends rien, que les chrétiens continuent d'avoir une liturgie et que les juifs, et ça c'est quand même assez nouveau dans la mentalité chrétienne, parce que d'une certaine manière, parfois on pourrait croire que le culte juif, vu que le christianisme vient après le judaïsme, c'est ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Aujourd'hui, l'Église a condamné tout cela. Mais tout ça pour dire que les chrétiens ont une liturgie et les juifs ont aujourd'hui une liturgie. Alors je proposerai trois pistes de dialogue. Effectivement, de voir comment la liturgie aussi, elle peut être un lieu de dialogue. Parce qu'elle est fondamentalement un lieu de dialogue entre Dieu et son peuple. Les juifs ont cette conviction que Dieu leur parle, eh bien c'est aussi ce que nous avons redécouvert. Et c'est, je pense, à mon avis, c'est mon hypothèse, que la véritable racine juive de notre liturgie, elle se situe au niveau de la parole et des saintes écritures. Donc le premier chantier que je proposerai, c'est de grandir dans une écoute commune des saintes écritures. Il y a deux textes magnifiques. D'abord, le Concile qui a redonné une valeur importante à l'Ancien Testament, disant qu'il y avait le sens du mystère de Dieu, qu'il y avait toute une anthropologie qui nous marque encore nous aujourd'hui. Et puis, il y a un texte du temps du pape Jean-Paul II, le peuple juif et ses saintes écritures, qui consacre plusieurs numéros sur comment les juifs comprennent les saintes écritures. Eh bien, nous, les chrétiens, nous devons aussi recevoir de ce témoignage-là. Et puis, être ensemble pour se mettre à l'écoute des Écritures. Il y a une initiative qui a été lancée à Paris et que j'aimerais aussi mettre en place à Toulouse, c'est de mettre des séminaristes et des juifs ensemble, deux par deux, c'est très juif ça en fait, de se mettre deux par deux pour se mettre à l'écoute des Écritures, d'écouter le juif, d'écouter le chrétien et voilà.
Comparer,
qu'est-ce que tu entends toi à travers ces Écritures que nous reconnaissons comme saintes, toi juif et moi chrétien. Le deuxième lieu, c'est de grandir davantage dans une connaissance des fêtes juives, justement du temps. C'est quoi la Pentecôte juive ? C'est quoi la Pâque juive ? C'est quoi la fête des tentes ? C'est quoi Yom Kippour qui est peut-être après ou avant Pessah, je ne sais pas, un jour très important. Donc, il me semble que ça sera peut-être une suite à cette session de davantage connaître les fêtes juives. Parce que ça serait peut-être un peu trop... Le fait de chercher à savoir quelles sont nos racines juives, d'un certain côté, on respecte pas trop les juifs. On cherche à savoir ce qu'ils nous ont donné. J'exagère un peu, mais alors que le Concile Vatican II nous invite aussi à apprendre ce que vit le juif. Et ça, pour moi, c'est très important. D'apprendre à découvrir c'est quoi une fête juive, sans forcément avoir en tête « Ah ouais, mais c'est quoi le lien avec la Pentecôte chrétienne ?» Non, d'apprendre à connaître qu'est-ce qui, toi, te nourrit, qu'est-ce qui est au cœur de ta prière. Et puis, le troisième point, c'est une question. Quel est le lien entre le Shabbat et le dimanche ? Pendant des siècles, on a dit que le dimanche, c'était substitué au Shabbat. Jean-Paul II a eu des termes très forts dans « Dies Domini » pour dire qu'il nous fallait redécouvrir la spiritualité du Shabbat pour vivre pleinement le dimanche. Alors ma proposition, c'est de vivre le dimanche en sachant ce qu'est le Shabbat. Pas forcément de christianiser le Shabbat. Certaines communautés le proposent et c'est sans doute bien, mais il me semble qu'il faudrait davantage peut-être nous développer les chrétiens une connaissance du Shabbat et de vivre le Shabbat avec eux pour ensuite entrer nous dans le dimanche.
Il y a une citation là qui me revient en vous écoutant et je crois qu'elle est de Jean-Paul II. Les Juifs sont nos ancêtres dans la foi. Est-ce que aujourd'hui tout chrétien doit avoir cette idée à l'esprit, les Juifs sont nos ancêtres dans la foi?
Alors, il disait que c'était nos frères aînés dans la foi, ce qui nous replaçait dans une dynamique fraternelle. Mais, comme le rappelle le grand rabbin de France, dans la Bible, le frère aîné n'a pas la bonne place.
Le meilleur, oui, le meilleur rôle.
Alors, peut-être que l'image qu'on pourrait avoir, c'est celle que saint Paul emploie dans la lettre aux Romains, au chapitre 11, si je ne me trompe pas, de l'arbre. Eh bien, un arbre a des racines. Et en fait, on ne peut pas se couper de nos racines. Et nos racines, c'est pour ça que je l'ai piqué pour l'intitulé de cette session, nos racines sont juives. Et donc, à nous de redécouvrir ce que ça implique, non seulement dans la liturgie, mais aussi pour la liturgie. Et puis, une autre image qui est peut-être plus fidèle au Concile Vatican II, c'est le lien. C'est-à-dire que nous avons un lien. Parce que là encore, l'image de la racine, ça pourrait se dire, oui, la racine, elle est cachée, elle est loin du fruit. Donc, et puis les racines nous situent dans le temps historique. Donc oui, on a des liens avec les Juifs du 1er siècle.
Mais
non, en fait, ouais. On a quelque chose de commun. Par exemple, une attente commune. Nous attendons, les Juifs comme les chrétiens, nous attendons le Messie. Alors nous, les chrétiens,
on le retour du Messie.
On perçoit quelques traits du Messie, parce qu'on n'a pas vu Dieu, comme dit saint Jean. Mais nous sommes, et parfois les chrétiens, nous l'oublions, et l'Église, dans ce fameux document du peuple juif et des saintes écritures, l'Église nous dit, mais on peut apprendre des Juifs la stimulation de l'attente. Et cette dimension, je vais dire un gros mot, eschatologique, qui est au cœur même de notre liturgie. Nous annonçons la mort de Jésus, nous proclamons sa résurrection, mais nous attendons qu'il vienne. Et nous avons sans doute une mission commune, les Juifs et les chrétiens, être dans une attente patiente, bienveillante, amoureuse, par le biais des Écritures, par nos prières. Nous savons que le monde va être racheté par le Messie. Et donc, vous voyez là, il y a un respect aussi. On ne va pas dire aux Juifs que le Messie, c'est Jésus. L'Église n'invite pas à l'évangélisation des Juifs. Là, il faut lire chapitre 8, 9, 10 et 11 de la lettre aux Romains pour découvrir que nous n'avons pas à évangéliser les Juifs. Nous avons à retrouver une fraternité et une sorte de partenariat dans l'alliance pour l'attente du Messie.
Oui, alors d'ailleurs, le dernier volet de votre intervention du vendredi, donc le dernier volet de votre intervention du colloque en entier, vous l'avez sous-titré « Une attente et une mission commune ». Quand vous parlez d'attente et de mission commune, ben, vous vous adressez autant aux Juifs qu'aux chrétiens. Est-ce que vous savez s'il y aura des Juifs qui seront présents, puisque c'est déjà complet?
Alors, c'est déjà complet, et comme on disait, ça montre l'intérêt de cette question. Moi, je suis très heureux que parmi les chrétiens et que l'Institut catholique, c'est pas moi qui ai proposé cette session, on me l'a demandé. Donc, c'est déjà un beau signe qui montre que ça travaille l'esprit des chrétiens dans cette période touchée par l'antisémitisme qui revient de manière très forte et très politisée aussi. En fait, cette session, elle trouve une place
dans l'actualité.
Dans l'actualité. Oui. Et puis, là aussi, c'est un beau signe. Dès que cette session a été rendue publique, on va dire, eh bien, mes amis et frères juifs m'ont contacté pour me dire, eh bien, on essaiera de venir. Le grand rabbin de Toulouse va tout faire pour essayer de venir le jeudi. D'autres aussi, membres de communautés juives, essaieront d'y être là. Donc, c'est quand même un beau signe. Et puis, je sais que nous suivrons à distance et en visio des personnes de Jérusalem. Donc finalement, cette session, elle s'intègre dans une actualité qui replace la liturgie là où elle doit être, c'est-à-dire la source et le sommet de notre vie avec Dieu et avec nos frères et sœurs humains.
Dernière question pour terminer. Comment espérez-vous que ceux qui vont assister à ce colloque vont en ressortir?
Eh bien, j'espère qu'ils découvriront que nous sommes profondément liés au judaïsme. Et que si ça peut extirper quelques racines peut-être antisémites ou anti-juives qui peuvent encore rôder dans certains esprits chrétiens, et de découvrir finalement que être dans l'anti-judaïsme, c'est être dans l'anti-christianisme.
Et c'est être dans la haine de soi finalement.
Dans la haine de soi et dans la haine de Dieu, parce que c'est Dieu qui a fondé ce peuple. Et c'est dans ce peuple qu'il a voulu faire naître son fils. Donc, redécouvrir ces liens, c'est approfondir notre relation avec Dieu.
Oui, le grand écrivain catholique Léon Blois a écrit quelque part, je ne sais plus où, qu'il n'y avait pas de péremption pour les promesses divines, et il pensait à l'élection du peuple juif.
Oui, et il y a aussi une expression qui me marque beaucoup personnellement, qui vient du poète Charles Péguy, qui a beaucoup fait pour redécouvrir ce lien avec le judaïsme, qui parlait d'un ressourcement en tradition. C'est un terme qu'on emploie beaucoup pour le Concile Vatican II, et on ignore que c'est une expression que le père Gilles, un liturgiste, a repris. C'est un néologisme qu'avait employé Charles Péguy, un ressourcement, pour dire que le Concile Vatican II avait cherché à revenir aux sources de la foi et que nous avons à revivre un ressourcement en tradition. Eh bien, on doit le faire aussi dans nos sources juives. Mais ce qui est très beau avec cette expression, c'est que quand on va vers les sources, on se rend compte que ce sont les sources qui viennent vers nous. Et donc, peut-être c'est ça que j'espère aussi pour les personnes qui seront là, de se laisser peut-être déborder par ces sources.
C'est la fin de cette émission. Merci infiniment d'en avoir été l'invité, Père Arnaud Franc. Je rappelle que vous animez le colloque Les Racines juives de la liturgie chrétienne, les jeudis 14 et vendredi 15 novembre à l'Institut catholique de Toulouse. Il faut s'inscrire au préalable pour y participer. Donc maintenant, ce sera à distance puisque c'est complet sur place. Le tarif est de 75 € pour les deux jours, 62 € pour les étudiants. Les inscriptions se font par mail à l'adresse ierp@ict-toulouse.fr. Elle peut se faire également par téléphone en appelant le 05 62 26 58 84. 05 62 26 58 84. Vous pouvez aussi consulter le site de l'Institut catholique www.ict-toulouse.fr. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes. À la semaine prochaine.